dimanche, RVE, il est 9h.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On vous avait fait vivre les 20 ans de Tribune Sport la semaine dernière. On va vous faire vivre ce matin, pendant 2h, entre 9h et 11h, la 22e édition du semi-marathon de Rambouillet. Hein, j'allais dire l'épreuve la plus ancienne en matière de course à pied dans notre région. 2400, j'ai bien dit 2400 inscrits donc ce matin pour vous faire vivre eh bien, l'événement phare de l'année sportive sur Rambouillet. Alors on est content de retrouver celui qui était déjà avec nous à Bullion il y a un mois pour l'ouverture de la saison. C'est Hervé Roussel. Hervé, bonjour.
Bonjour Hervé.
Alors, on est content Hervé, parce que même si la météo aujourd'hui n'est pas terrible, le semi-marathon de Rambouillet annonce aussi l'arrivée du printemps. Hein. C'est aussi une tradition ça.
Je pense que oui, ça annonce vraiment le printemps, même si c'est pas le printemps encore aujourd'hui Philippe. Mais bon, c'est vrai que le semi-Rambouillet, je crois que c'est la 22e édition.
Oui, oui, oui.
Donc c'est quand même une course qui est phare dans les Yvelines et ça attire de nombreux coureurs, visiblement.
Oui, une course qui avait commencé en 1987, hein, qui est vraiment devenue maintenant une tradition, un rituel, l'événement phare hein, pour le sport sur Rambouillet, même s'il y a d'autres grandes épreuves aussi de course à pied, comme Bullion, hein, qu'on couvre maintenant tous les ans, comme le Perret aussi, qu'on verra au mois de septembre. Mais 2400 concurrents, on a été obligé, Hervé, une nouvelle fois, de clore et très tôt les inscriptions, parce qu'on en parlait hier avec Jean Dedin, on aurait très bien pu arriver à 3000 participants.
Oui, c'est surprenant. C'est surprenant, mais ça prouve que la course sur route marche toujours. Et parce qu'on avait bien remarqué que à Bullion, nous avons eu plus de 1000 coureurs encore.
1200.
Et donc, d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont peut-être pas pu viser le record, mais presque. Rambouillet, 2400. Je crois que c'est vrai que si on aurait très bien pu atteindre, pourquoi pas les 3000, voire peut-être les 4000, parce que c'est une course qui est très populaire dans la région des Yvelines, et que visiblement, ça attire les coureurs, et que certainement aussi que le parcours s'y prête.
Alors Hervé, justement, ce parcours, on y reviendra, hein, 2/3 en sous-bois, 1/3 donc en ville. C'est un parcours quand même beaucoup moins sélectif qu'à Bullion, beaucoup plus plat. Il s'est passé quand même un mois depuis la rentrée, depuis cette course de Bullion, depuis début de saison, depuis la rentrée de la course à pied. L'état de forme donc est devenu un peu plus, je dirais, égal entre les participants, entre les coureurs. Comment va se passer cette course? Ça va être complètement différent de Bullion.
Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Le parcours par rapport à Bullion n'a rien à voir, absolument rien à voir, parce que le Rambouillet, c'est comme, je dirais que c'est quand même un parcours, par expérience, relativement plat. Beaucoup de bois entouré de forêt, donc ça, quelque part, puisque j'ai remarqué qu'il y a un petit peu de vent, ça va protéger beaucoup les coureurs. Par rapport au parcours de Bullion, ça n'a rien à voir. Absolument, donc, Bullion, c'est un parcours très sélectif, où on a retrouvé les coureurs, très peu de coureurs qui étaient en tête de la course, et qui, ce sont des coureurs qui revenaient du
cours cette saison.
La forme est très différente, sauf qu'aujourd'hui, là, on va rencontrer les coureurs, les vrais coureurs de course sur route, et je pense que au niveau, déjà, en tête de la course, on sera beaucoup plus nombreux et ce sera beaucoup plus, je dirais, plus dur.
À Bullion, il y a toujours un endroit stratégique, c'est après la côte de la Villeneuve, et puis le long faux plat qui mène donc justement de la côte à la Villeneuve au centre de foot de Clairefontaine, hein,
oui.
Où le coureur qui est un peu plus frais, qui a un peu moins besoin de temps de récupération dans la descente, réussit à faire la différence et à fausser compagnie à ses autres compagnons d'échappée. Là où la course peut-elle se jouer? Est-ce qu'il y a un endroit un peu plus redouté, un peu plus stratégique?
Non, véritablement, il n'y a pas, mis à part peut-être au 5e ou 6e kilomètre, juste dans la grille du château,
oui.
Où là il y a un petit raidillon qui n'est pas très important et qui est vraiment très proche de la ligne de départ.
Trop proche.
Et trop proche. Et donc je pense pas que c'est là que ça va faire la différence. La différence se fera aux alentours du 15e kilomètre, donc du côté de, je dirais, du côté de la clairière là-bas, où là il y a plein de petits virages et où là on peut prendre cette distance.
Alors je parle aussi à l'organisateur du SMI des Étangs Perret. Vous avez une partie commune, hein, entre le Perret et le Rambouillet. Hein,
absolument, nous avons même une bonne partie commune, puisque nous avons 3-4 kilomètres. Les temps de Coupe-Gorge, la grille au lapin jusqu'à l'étang de Coupe-Gorge pour arriver donc à la Croix-Saint-Jacques. Nous avons tous cette partie commune avec donc le semi de Rambouillet. C'est un parcours qui est merveilleux, protégé du vent de la pluie, non, bien sûr, mais bon, là, pour l'instant, il ne pleut pas. Une température relativement douce ce matin. Je pense que c'est une course idéale pour le vainqueur.
Très bien. Eh ben, on va quand même parler de rugby aussi, hein, puisqu'on a Jean-Michel qui est avec nous. Salut Jean-Michel. Comment ça va?
Salut. Très bien. Très bien.
Alors, justement... On va faire un peu le bilan, hein, comme on le fait tous les week-ends, pour le tournoi destination de cette édition donc 2008. Alors Jean-Michel, on s'était quitté la semaine dernière, donc avec juste avant le match de la France contre l'Italie, hein, 25-13 pour une équipe de France qui a peiné contre l'Italie, hein, pluraliste simplement. Et puis hier, il fallait quand même une équipe de France qui soit d'un niveau plus élevé. L'équipe de France n'a pas démérité, mais c'est bien la meilleure équipe qui s'est imposée sur l'ensemble donc de ce tournoi à l'arrivée, donc 29-12. Pour le Pays de Galles, qui remporte le 10e grand chelem de son histoire, 3 ans après un précédent.
Ben oui, j'ai envie de titrer rouge vermillon et bleu ciel. Alors certains voyaient dans ce Galles-France une finale du tournoi 2008. Mm-hmm. Ces certains-là n'avaient pas capté que la finale n'était que pour le Pays de Galles, qui était le seul à jouer le grand chelem. Or, quand on joue un grand chelem, on n'est pas dans le même état d'esprit qu'une équipe venue que pour partager une victoire, même si la différence du goal, l'avérage, fait les vainqueurs. Mm-hmm. Pour cette rencontre décisive, le staff avait pris le parti de rappeler certains cadres, rappelant à certains observateurs qu'il ne prenait pas ce tournoi tout à fait à la légère. Mais fidèle à ses convictions, il a tout de même emmené dans ses bagages une poignée de jeunes qui vraisemblablement seront les cadres de demain. Sa revue d'effectifs ainsi faite, Lièvremont peut être satisfait, la majorité de ses choix fut judicieuse. Seuls certains observateurs avertis connaissaient les pointures proposées par le coach. Que dire notamment de la trouvaille Barcella, pilier occitain, ô combien généreux et efficace. Mais aussi l'arrière flanche, l'ailier Malzieu et tant d'autres, puisqu'il y avait 13 jeunes. Mais revenons au match. On savait qu'on ne gagnerait pas au millénium. Je l'avais annoncé déjà, dimanche dernier. Mais on savait aussi que ce serait un match intense, dur, face à une défense déroutante galloise, cette fameuse défense inversée dont tout le monde parle. C'est tout un peuple qui nous a battus. Chapeau, monsieur Gatlan. Vous avez redonné une âme à ces diables rouges et ce n'est que justice. Voilà, le tournoi est terminé. Le laboratoire de Lièvremont n'a pas accouché d'une souris, mais d'un formidable espoir de voir surgir une grande équipe française. Et ça, c'est bon, Philippe.
Alors, Jean-Michel, justement, le tournant du match, hein, c'est cette 50e minute, hein, quand les Gallois marquent cet essai en contre. Le match se débride et à partir de là, on voit l'équipe du Pays de Galles qui, j'allais dire, a mis le turbo.
Oui, absolument. Mais je pense que hier, c'était pas la journée de ce trait-là. Et cette passe dans le dos à Josion nous a été fatale. Et puis, quand on a Shane Williams en face, évidemment, ce genre d'action ne pardonne pas.
Comment expliquer le renouveau du rugby gallois en quelques mois, hein? On sait qu'il avait été éliminé au premier tour du mondial.
L'effet Gatland. L'effet Gatland qui a été un très très grand monsieur et qui a su justement renverser la vapeur avec cette équipe de Galles, qui était effectivement au creux de la vague depuis 3 ans, hein, depuis qu'elle avait remporté le... Bon, ça n'était qu'une pâle figure de l'équipe de Galles qu'on avait connue, et Gatland est arrivé, il a su redonner et insuffler une nouvelle façon de jouer, une nouvelle philosophie même de jeu.
Avec une équipe donc qui effectivement finit toujours très fort ces matchs, hein. C'était aussi une de leurs particularités.
Absolument, absolument. Mais de toute façon, ça a toujours été le Pays de Galles. Hein. Mm-hmm. Les 20 dernières minutes sont redoutables avec eux. Mm-hmm. Et on le savait, les Français étaient avertis. Et par contre, alors là, une petite parenthèse tout de même, parce que on a quand même été court physiquement sur les 3 derniers matchs.
Ouais.
Sur les 3 derniers matchs, les 20 dernières minutes ont quand même été relativement difficiles pour les Français. Alors, est-ce que c'est un jeu trop ambitieux que veut faire développer Lièvremont et physiquement, les gars ne tiennent pas? Alors, c'est possible. Mm-hmm. Ça peut venir parce que ça se travaille. C'est un jeu qui se travaille, mais qui est très ambitieux, qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts aux joueurs parce qu'ils n'arrêtent pas, quoi. Ils sortent vidés, tous.
Il y a un coaching pourtant.
Il y a un coaching, mais toujours à contre-temps. Jamais dans le timing. C'est ce que je reproche un petit peu à Lièvremont, c'est qu'il change sa charnière à un mauvais moment. Soit il aurait fallu la changer un tout petit peu plus tôt, soit un tout petit peu plus tard. Mais bon, là aussi, il faut qu'il fasse ses armes, Lièvremont, il faut qu'il apprenne à coacher.
Alors, on va quand même rappeler que ça devait être une sacrée fête au Pays de Galles, Jean-Michel. Hein.
Oh là là.
On connaît l'amour donc des Gallois pour le Ballonval. La nuit a dû être chaude.
Et pas que cette nuit, Philippe.
Ça
pas que
cette nuit,
parce qu'ils étaient 250 000 dans les rues, parce qu'ils n'avaient pas pu avoir de billets d'entrée. Alors, imaginez un petit peu... de toute façon, il se réveille ce matin certainement avec le casque lourd, mais...
quelle joie!
Oui, quelle joie! Et puis surtout, ça va durer plusieurs jours.
Alors, d'autres matchs quand même avec l'Angleterre qui s'est réhabilitée, qui a battu l'Irlande 33 à 10. Ça vaut aux Anglais finalement la deuxième place. Ils viennent nous coiffer sur le fil pour la deuxième place dans ce tournoi.
Absolument. Et puis, bon, moi, je rajouterai une chose quand même, c'est que ces Anglais nous ont un petit peu surpris hier. Mmh. Mais par contre, ce qui nous a le plus surpris, c'est la performance des Irlandais qui, là, sont en train de dégringoler à vue d'œil.
Ouais. Ils ont lâché hier, hein, Jean-Michel, complètement, hein, les Irlandais. Pourtant, ils n'avaient pas perdu des matchs de beaucoup contre la France, contre le Pays de Galles. Mais là, hier, je crois qu'ils ont complètement lâché.
Là, ils ont complètement décroché. Ouais, et je pense que là, ils ont du souci à se faire. Mmh. Ils ont beaucoup de soucis à se faire parce qu'il n'y a pas de fond de jeu dans cette équipe irlandaise. Il n'y en a pas. On ne sent pas des fondamentaux. Bien précis et comme je le dis régulièrement, quand il n'y a pas de fondamentaux au rugby, on ne peut pas jouer au rugby. C'est pas possible. Okay. Parce qu'il faut impérativement des ballons pour les faire courir. On peut pas faire autrement.
Justement, hein, l'Irlande donc, qui termine à la quatrième place, c'est 4 points. Hein, donc,
Absolument. Et c'est une contre-performance. Oui. C'est une contre-performance parce que au début de ce tournoi, moi, je les voyais rivalisant avec le Pays de Galles, voire la France. Mm-hmm. Et ce n'est pas le cas.
Ouais, ouais. Et c'est, je crois, la plus mauvaise place des Irlandais dans le tournoi depuis 2000 ou 2001. Hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut.
2001, oui, je crois.
Ouais, ouais.
Oui, mais nos auditeurs nous feront grâce si on se trompe d'une année, mais je crois que c'est 2001. Oui.
Ouais, ouais. Donc l'Angleterre deuxième, la France troisième, l'Irlande quatrième. Et puis finalement l'Italie qui remporte son troisième succès dans le tournoi en battant l'Écosse 23-20, ce qui évite quand même à l'Italie la cuillère de bois, même si l'Italie termine à la dernière place juste derrière l'Écosse.
Et quelle partie ?
Ouais, ouais,
quelle partie ? On sent vraiment que l'effet Nick Mallet est là et que bon l'Italie, si c'est ce que je disais il y a 15 jours, hein, l'Italie peut être le coq gaulois il y a 40 ans.
Ouais, ouais, parce qu'ils ont posé des problèmes dimanche dernier, Jean-Michel.
Hein. Ah oui, oui. Par contre, ils n'ont pas de réservoir, c'est ça qui m'inquiète.
Ouais, 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 ouais.
Ça m'inquiète beaucoup, ils n'ont pas de réservoir. Donc, il va falloir faire avec cette génération de joueurs. Et par contre, je sens pas grand-chose venir derrière. Quoi.
Le Pays de Galles, donc, officiellement champion d'Europe, parce que maintenant, le vainqueur du tournoi est officiellement champion d'Europe. Hein.
Absolument, c'est devenu un rituel. Et, puis ça y est, c'est inscrit dans les mœurs. Celui qui gagne le tournoi des 5 nations devient champion d'Europe.
Alors Jean-Michel, maintenant, la suite pour le 15 de France. Il y aura quand même une tournée en Australie, donc à la fin juin, début juillet, où on va continuer à procéder, j'allais dire, à des essais.
Ah ben, je crois qu'on ne peut plus s'arrêter en route. Hein. À partir du moment où il a défini son choix de jeu et son choix de renouvellement des cadres, eh ben, il est coincé, il ne peut pas faire autrement, hein. Il ne peut pas revenir en arrière. Donc, et puis, ça serait dommage quand même, parce que cette pelletée de jeunes qui arrivent sur le tapis commence à en passer. Je parlais de Floch, je parlais de Barcella, je parlais de Trenduc, mais il y a aussi Paral, le début de mêlée, qui est certainement un très très super grand.
Très bien, donc l'actualité pour l'instant pour le rugby, c'est le championnat, hein. Ouais. 14 et puis les Coupes d'Europe qui vont reprendre bientôt, Jean-Michel. Hein.
Eh oui, les Coupes d'Europe qui vont reprendre, et puis attention au match piège de cet après-midi du Stade français à Clermont-Ferrand, là, on risque d'assister à une dégringolade d'un piédestal un peu trop annoncé.
Voilà, en tout cas, merci de nous avoir fait vivre ce tournoi. Hein, et puis, en tout cas, on espère plus de réussite pour les clubs, pour le rugby en Coupe d'Europe que nos clubs de foot, qui malheureusement, une nouvelle fois, n'ont pas pu franchir donc le cap des quarts de finale. Ça devient vraiment récurrent. Il va vraiment falloir un jour donc étudier ce problème d'un peu plus près. Voilà, bah, tiens, justement, comme on parlait d'Australie, ceux qui se sont qui ont fait une petite grasse matinée ce matin ont peut-être pas pu suivre le premier Grand Prix de la saison. Victoire donc d'Hamilton sur sa McLaren devant Hetfeld et Rosberg.
Je suis pas surpris.
Ouais, ouais. Le quatrième, c'est Alonso. Et Bourdais a fait un beau Grand Prix, hein, même s'il termine finalement au huitième. Le moteur a cassé à 4 tours de l'arrivée. Il est classé, il marque des points. Donc, il y a eu un premier Grand Prix hécatombe du côté de Melbourne. On remettra ça donc la semaine prochaine en Malaisie.
Alors, un petit clin d'œil, Philippe. Un petit clin d'œil, parce que vous savez qu'aujourd'hui, du Trocadéro par le circuit jusqu'à Pékin.
Ah oui, oui.
Dont fait partie Joël Gaboury, un rambolitain qui va se taper donc je crois que c'est 13 000 km.
Hein. Oui, oui, oui.
13 000 km, il va se taper 13 000 km avec la traversée du désert de Gobi. C'est quand même une performance qu'il fallait signaler. Je tenais à lui donner un petit coup de chapeau.
Absolument. Allez, voilà. Donc maintenant, on va retrouver nos studios avec Jérémy, hein, qui va nous envoyer un peu de pub, un tout petit peu de musique. Et puis ensuite, eh ben, on va pénétrer au cœur de cette 22e édition du semi-marathon de Rambouillet. On y va. Oui, 9h21, hein, depuis naturellement l'événement sportif de cette année sur Rambouillet, le semi-marathon. On a un des responsables de ce semi, Hervé Joly. Hervé, bonjour.
Bonjour. Alors,
Hervé, je suppose que ce matin, vous êtes un organisateur satisfait. Hein, 2400 concurrents, vous auriez pu en accueillir 3000, même 4000, ça paraît assez incroyable quand même.
Oui, oui, c'est vrai. Tout d'abord, bon, l'organisation, c'est Jean de Hédin, hein, tout le monde le sait.
Oui,
on a toute une équipe derrière, mais c'est Jean de Hédin.
Vous parlez pour l'équipe, naturellement.
Voilà. Alors, c'est vrai que cette année, on a battu tous les records d'inscription, puisqu'il y a déjà un mois qu'on refuse du monde. Il y aura 2400 coureurs cette année au départ, ce qui est un record. Et puis, c'est vrai que cette année, si vraiment on l'avait voulu, on pouvait atteindre le seuil des 4000 coureurs, ce qui est absolument incroyable. Mais bon, pour des raisons de sécurité, on le sait, et puis pour que tout le monde soit satisfait, on est obligé de se limiter. 2400, c'est vraiment un maximum. Hein. Il y a des parties du parcours, notamment les pistes cyclables qui sont assez étroites et on ne peut pas prendre de coureurs supplémentaires. Alors c'est vrai que bon, on est très satisfait du succès que remporte le semi-marathon cette année. C'est vrai que nous avions pris le pari d'organiser cette course un jour d'élection, ce qui n'était pas gagné d'avance au départ, mais ce qui finalement nous a servi, puisqu'on a très peu de concurrents aujourd'hui pour organiser des courses en ce dimanche 16 mars. On va prier également pour que la météo soit avec nous, puisque ce matin, lorsque nous sommes arrivés, les tout premiers bénévoles, sur le coup de 6h30 au stade de Vieux-Moulin, il tombait des cordes, j'ai bien des cordes, et donc pour l'instant, il peut pas, on va espérer que ça va être comme ça toute la matinée. En tout cas, bon, bah, on va croiser les doigts. Hein.
Ouais, parce que il y a eu des petits problèmes au niveau de l'organisation. Hein. Cette nuit, il y a un arbre qui est tombé, je crois, sur une partie.
Voilà,
ça c'est lié, malheureusement. Ce sont les impératifs de dernière minute.
Voilà.
Organisateurs. Hein.
Tout à fait. On a toujours des impondérables de dernière minute, toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Bah voilà, cette nuit, on a eu une petite surprise. Il y a eu un arbre qui est tombé en travers de la piste cyclable du côté de la Forêt Verte, pour ceux qui connaissent là-bas. Mm-hmm. Et donc, heureusement, les gens de l'ONF ont été
Très réactif,
on va dire comme ça. Et donc, il n'y a plus d'arbre au travers de la piste cyclable. Il a été coupé. Ça ne gênera pas les coureurs. Et puis, il faut savoir que nous avons aussi également la chance, ceci explique peut-être cela, dans le peloton de trouver Bruno de Groulard, le responsable ONF du secteur de Rambouillet, qui participe à ce semi-marathon comme tous les ans.
Alors, on va regarder la liste, hein, les 2400. On vient de très loin. Hein, on vient vraiment de...
Ah oui, tout à fait. Il y a des gens qui viennent de toute la France.
Oui.
Et puis, pour tout, un petit clin d'œil d'ailleurs au vainqueur de l'an dernier qui s'appelle Fabrice Derry,
qui est
rambouillétain. Cette année, il court sous les couleurs de Marseille, puisque pour des raisons professionnelles, maintenant, il travaille sur Marseille, et donc il représentera Marseille. Et il portera le dossard numéro 1, vainqueur oblige, puisque c'est lui qui avait remporté l'édition l'an passé. Pour la petite histoire et l'anecdote aussi, le dossard numéro 2 sera apporté par le maire adjoint chargé de sport Bernard Lalette, sur la ville de Rambouillet. Alors il m'a dit qu'il avait une très lourde responsabilité avec ce dossard numéro 2, mais qu'il prenait comme... il s'était fixé comme objectif de faire moins de 2 heures, ça correspondra tout à fait à son dossard.
Oui, en tout cas, il n'a pas beaucoup d'entraînement, Bernard, et pour cause, hein, il a été très sollicité, mais enfin, il va quand même gérer sa course. Hein,
oui, il m'a dit que ce matin, avant de venir au stade, il avait commencé par aller ouvrir un bureau de vote.
Voilà. Alors, Hervé, il y a une façon particulière de courir ce semi, parce qu'on a aujourd'hui une météo où, il fait assez frais, hein, il ne fait pas très froid, mais il y a eu de la pluie, il y a du vent. Est-ce qu'il y a une façon particulière de se préparer?
Non. Bon, l'essentiel pour les coureurs, c'est surtout de ne pas prendre la pluie au départ. Ouais. C'est un peu ce qu'ils craignent. Une fois qu'on est dans la course, c'est déjà un peu moins délicat. C'est surtout au départ. Bon, c'est vrai qu'il fait un peu frais, mais bon, tous les coureurs le savent. Dans un semi-marathon, on se réchauffe très très vite. Il n'y a que le premier kilomètre. Alors, en plus, à Rambouillet, la particularité de ce premier kilomètre, c'est qu'il est extrêmement rapide puisqu'il est en descente. Donc c'est un petit peu le piège aussi pour certains, faut pas trop s'emballer, mais ils vont être très vite réchauffés, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un petit peu de vent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties boisées en forêt où ils sont à l'abri. Donc si ça reste comme ça, comme c'est actuellement, tout au long de la matinée, ça sera parfait.
Oui, et puis c'est qualificatif aussi. Hein,
oui, qualificatif au championnat de France, comme tous les ans. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver des coureurs de haut niveau. Et puis, c'est vrai qu'à Rambouillet, la particularité, c'est qu'il y a du haut niveau devant. Et puis, il y a aussi monsieur et madame tout le monde qui viennent courir ce semi-marathon.
Ça va se jouer dès le départ?
Ah, ça, c'est toujours difficile à dire. On sait que la difficulté principale... Une des difficultés, en tout cas, se situe entre le 3e et le 4e kilomètre, la côte à l'entrée de la forêt,
du
côté du coupe-gorge, et souvent, ça fait un petit peu la décision, même si elle n'est pas définitive, parce qu'on est encore très loin de l'arrivée, quoi.
Très bien, merci.
Je vous abandonne, on attend sur la ligne de départ.
Oui.
Je vous souhaite une bonne course à toutes et à tous, et on va suivre ça en direct sur RVE.
Absolument, hein, vous vous branchez tous ce matin, donc sur Antenne RVE au bord de la route, naturellement. Hein,
absolument.
Ceux qui veulent aussi suivre cette course, eh ben, ils peuvent aller encourager les coureurs et nous écouter sur le bord de la route, Hervé. Alors, effectivement, on en parlait, vous étiez en train d'éplucher la liste, hein, pendant qu'on était en train de faire un petit point avec Hervé Joly. Il y a des coureurs quand même qu'il va falloir surveiller de très près, hein. Il va falloir les marquer presque à la chaussure, à la culotte.
Oui, parce que bon, nous avons quelques coureurs comme Desrues, bon, Fabrice oui. Desrues, qui est donc maintenant qui fait partie du club de Marguerite Marseille, puisque l'obligation, le travail, donc il s'est installé là-bas. Mais on a aussi Sylvain Bazin aussi qui est parmi nous, qui je crois qu'il avait fait 5 ou 6e l'année dernière, Philippe, je me sens.
Oui.
Si vous me dites tout ça. Sylvain, bon, c'est un excellent coureur. Bon, je dirais qu'il est peut-être pas trop de course sur route.
Plus de trail maintenant.
Maintenant, il s'est orienté vers course de nature, trail, et ça lui plaît. Mais néanmoins, c'est un excellent coureur. Je ne sais pas comment il a préparé sa course de Rambouillet cette année, mais je pense qu'il sera encore parmi nous dans les 10 premiers, tout au moins.
Oui, hein? Est-ce que c'est pas une course de préparation pour lui, justement, en vue de ses objectifs concernant le trail?
Le trail, on peut pas mélanger les deux courses, c'est-à-dire course sur route, semi-marathon et un trail, ça n'a absolument rien à voir. Néanmoins, le fait de faire le semi-marathon, c'est une course où on y a la vitesse. Ça permet quand même aux coureurs de popiner au niveau, je dirais, vitesse et endurance, qui, lorsqu'il va se représenter sur un trail après, forcément, il sera très très bon, quoi. Hein. Mm-hmm. Mais ça n'a absolument rien à voir.
Alors, Hervé, on le disait, les conditions météo, il a beaucoup plu cette nuit. Aujourd'hui, il ne pleut plus, hein, mais enfin, il fait assez humide. Est-ce que c'est finalement une bonne météo pour courir à pied, où il va falloir prendre ses précautions? D'abord, la chaussée va être glissante, et puis s'il pleut, on peut être mouillé des pieds, ça peut être aussi un problème. Au contraire, on a maintenant des chaussures qui protègent parfaitement bien le pied.
Effectivement, nous avons des chaussures qui sont bien adaptées à ce genre de compétition. Bon, mais néanmoins, même quand il pleut, la chaussure, elle est mouillée,
bien sûr. C'est gênant quand même.
C'est gênant parce que on a des coureurs qui sont plus ou moins fragiles des pieds et une ampoule est vite arrivée. Et quand on a une ampoule au début de course, croyez-moi, c'est faut la gérer jusqu'au bout et c'est très difficile, surtout quand on a les pieds mouillés. Mais maintenant, le temps idéal.
Oui, là, il peut pas.
Sauf que le vent a l'air d'être donc atténué. Donc peut-être ça pourrait justement améliorer encore la course. Mais Sinon, le temps est idéal. Bon, on a eu la pluie cette nuit, bon, qui ne va pas gêner ce matin la course. Hein, ça, non, pas du tout.
Mm-hmm. Pas du tout. Et la chaussée n'est pas glissante, donc ça peut gêner, ça peut perturber.
Ça pourrait gêner effectivement les coureurs, surtout quand on a des chaussures qui sont adaptées pour ce genre de course sur route, des chaussures ultra légères et où on n'a pas beaucoup de crampons. Ça pourrait effectivement, au niveau stabilité du coureur sur la chaussée, ça pourrait les perturber.
Mm-hmm. Alors on va rappeler effectivement qu'on va partir du stade du Moulin, hein.
Absolument.
On va se rendre dans le centre-ville de Rambouillet pendant 2-3 km et puis ensuite on va sortir, on va arriver au Coupe-Gorge et c'est là peut-être que les premières difficultés vont commencer. Bien cette descente va être ultra rapide.
C'est le départ. Déjà, je dirais qu'il y a une partie du peloton qui va se figer parce que bon, on a pratiquement, Philippe, je dirais 800 mètres de. Pas de grosses descentes, mais
descentes
à fond, ça va aller très vite. Donc là, les premiers, ils vont se mettre tout de suite en avant-poste pour justement gérer la course après. Nous avons au niveau du 3e, 4e, 6 km, donc une petite butte qui, effectivement, c'est un casse-patte quand même, qui va gêner un petit peu le poids, parce que va falloir que le gérer, cette petite bosse. Ensuite, on a cette fameuse ligne droite qui nous mène jusqu'à l'étang de Coupe-Gorge. Il va falloir aussi gérer parce qu'on va avoir un banc de passe. Ça va être difficile. Mais sinon, le parcours, il est idéal. Il est super. Ouais.
On se rappelle que par le passé, hein, sur l'ancien parcours, cette montée de Coupe-Gorge, elle intervenait souvent en fin de parcours. Hein, et là, elle était très souvent décisive.
Oui. Pour moi, la course va se dessiner tout de suite après la Croix-Saint-Jacques, une fois qu'on aura passé sur la Dive, où là, ce fameux sillon, je dirais, dans le bois, où il y a plein de virages, et où là, on peut faire la différence parce que quand on a une ligne droite, quand on a le coureur en point de mire, on arrive toujours à se caler. Mais quand il y a plein de virages, on ne le voit plus, et bien là, c'est beaucoup plus difficile. Et tout au moins, moi, j'ai dit que la course, je pense, aujourd'hui, ça va se dessiner à ce niveau-là.
Et dans les sous-bois, il y a une façon de courir, on se met plutôt à droite, on se met plutôt à gauche, on joue avec le vent, même qu'on est protégé, ou avec la chaussée, avec les vêtements, le macadam.
Mais effectivement, on gère sa course par rapport à la chaussée. Déjà, on a des chaussées qui sont plus ou moins, je dirais, bombées, ou là, effectivement, pour courir en plein milieu de la chaussée, parce que ça pourrait effectivement gêner le coureur, tout au moins au niveau des muscles, musculairement. Si on se retrouve sur le bas-côté, on est en décalage un petit peu, et ça peut être difficile.
L'échauffement va être naturellement important, et au niveau de l'alimentation, on va boire liquide.
L'échauffement est très important, bien entendu, parce que ce genre de course telle que le Rambouillet, où là on a un départ de course sur une descente, eh bien, il est bien évident, Philippe, il faut avoir un échauffement, je dirais, irréprochable. Parce que si nous n'avons pas l'échauffement, on ne peut pas donc à tourner à 3 minutes au kilo, ça c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Donc l'échauffement est très important, et l'alimentation, comme d'habitude.
On va manger, on va boire davantage être liquide aujourd'hui, comment ça va se passer?
Déjà, les pancréas ont pris leur disposition il y a quelques heures avant le départ, j'ai dû s'alimenter donc en sucre lent, et tout de suite avant le départ, pas tout le monde, mais certains coureurs, tout au moins les premiers, en général, ils prennent soit un café bien non sucré, qui est donc quelque chose de stimulant pour l'organisme avant le départ. C'est un quart d'heure avant le départ.
Alors, je crois 9h33, hein, on ne doit pas être très loin du départ, il y a un tout petit peu de retard, mais au moins on aura un coureur qui arrivera bien dans les temps, hein, et pas tout juste avant donc la fin de notre émission, lorsqu'on a des départs un peu plus tardifs. Parfait, ça vient de partir, ça vient de commencer. Nathan, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les premiers kilomètres, dans les premiers hectomètres de la course? Il va falloir surtout se placer, on va jouer un peu d'écoute quand même.
Ça va se jouer l'écoute, c'est sûr. Sur 2400 coureurs quand même au départ, c'est pas rien, c'est beaucoup, beaucoup de coureurs. Et il faut les gérer au niveau, sécurité, c'est très important, la gestion de cette course-là. Maintenant, la course va partir en trombe, ça c'est évident, c'est évident.
Ah oui.
Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire qui va être le vainqueur. Je ne sais pas, mais Fabrice Desrues, à mon avis, cette année, il sera encore bien placé, à mon avis. Ouais. Je ne pense pas que, même s'il vient du soleil maintenant, je ne pense pas que la pluie va le gêner. c'est pas ça qui va l'empêcher d'être dans, pour moi, dans les 5 premiers tout au moins.
Très bien, allez, on va faire ménager le suspense, hein, ça vient de partir, donc on va redonner donc l'antenne à nos studios, hein, pour un peu de musique, et puis très rapidement on revient pour vous faire un point sur les premiers kilomètres de ce semi-marathon de Rambouillet. Allez, c'est parti pour la musique. Nous sommes donc depuis effectivement devant donc, la bergerie nationale, hein, Hervé, pour donc eh bien commenter déjà les premiers kilomètres de cette épreuve. 2 kilomètres, on est à la sortie, hein, de maintenant de Rambouillet, devant justement donc le parc du château, là où on disputera la semaine prochaine les 10 kilomètres de Rambouillet. Hervé, c'est parti très vite, 10 coureurs déjà à peu près qui sont partis. On les a même vus prendre les deux côtés de la route, hein, aller sur les trottoirs carrément.
Oui, oui, c'est parti très très vite. Je dirais qu'il y a deux groupes qui se sont formés. Un premier groupe de 10 coureurs qui est en train de se disloquer un petit peu. Ça va très 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 vite. Un deuxième groupe qui se trouve derrière à une cinquantaine de mètres aussi. Des coureurs, nous avons un premier, donc c'est Vincent Peigne qui est donc Lézy, donc de Morpan, hein. C'est un coureur qui est très connu, mais pour moi il aura du mal à tenir la distance, mais bon, pour l'instant c'est lui qui mène la danse. Ça va très très vite, effectivement, dans le centre-ville de Rambouillet, on s'est aperçu qu'ils ont pris, ils n'ont pas voulu prendre les pavés,
ouais, bah,
parce que ça glissait, ils ont privilégié donc les trottoirs, c'est beaucoup plus roulant. Mais ça va très 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 vite, ça va très très vite. Donc là on arrive bientôt au troisième kilomètre, donc on disait tout à l'heure que c'est la petite montée qui risque de faire mal quand même, parce que quand je vois la vitesse que ça va, tel qu'on est, on est en train de les apercevoir là, c'est un semi qui va se courir aux alentours d'une nuit.
Hein. Oui. Ça va être intéressant, on va avoir une première indication dans la montée. Hein.
Je pense que oui, l'indication va se faire déjà là, même si ça ne fera pas la différence.
Alors justement, c'est conforme à ce qu'on pouvait dire et attendre, hein, de ce semi, c'est-à-dire que quand même le départ, il est souvent décisif, prépondérant. Hein. C'est-à-dire que ceux qui veulent jouer la victoire finale, il faut qu'ils ne ratent pas le bon coup. Quoi.
Ah, absolument, le départ est très déterminant. On l'a bien vu, là, encore une fois, c'est une départ qui se fait dans la descente, forcément, donc les meilleurs se trouvent aux avant-postes. Et il ne faut surtout pas rater le coche parce qu'on ne reviendra pas après. Hein. Ça, c'est clair. Mm-hmm.
Hein. Alors là, il y a à peu près, effectivement, d'une dizaine de 10 coureurs, il y a à peu près 6 ou 7 coureurs maintenant, hein, qui vont arriver en bas, justement, de cette première difficulté. Hein. Donc, la montée du coupe-gorge, donc il va être intéressant de voir comment ils vont gérer. Et derrière, c'est quand même l'écrémage, déjà.
Oui, il y a derrière, donc, même s'il n'y a pas une, je dirais, un grand écart, mais on voit que ça fait mal. On voit bien qu'ils tirent bien sur les bras, les gars.
Hein.
Là, et ça force. Hein. À mon avis, ça va. La petite côte, elle va faire très très mal. Je pense que ça va être décisif quand même. Tout au moins, on a un bon écrémage qui a été fait. Hein.
Alors, pour tout résumer, on a déjà un premier groupe de exactement 6 coureurs, et puis derrière, il y a des coureurs qui suivent. Hein. Il y en a un isolé juste derrière, et puis 4 ou 5 autres coureurs derrière. Tiens, voilà, ils abordent justement cette montée du lieu du coup gauche. Ça va être intéressant d'avoir.
Je voulais rajouter aussi qu'il y a Fabrice Ferrou qui est dans le groupe de tête, qui il est bien calé dans le groupe. Il est bien calé, il se protège, à mon avis, du vent. Il est bien.
Vous voyez que ça fait la différence. Vous voyez que déjà, du groupe de 6, il n'en reste plus que 2 dans cette côte du coup-gorge. Effectivement, on disait que c'était la première grosse difficulté. Ça fait des dégâts.
Ça fait des dégâts, oui, effectivement. Donc, on voit que l'écart est en train de se creuser entre le premier groupe qui est composé de 6 coureurs actuellement.
Ils sont revenus là.
De 6 coureurs actuellement. Ensuite, on se retrouve avec 3 ou 4 derrière qui sont à une cinquantaine de mètres. Il n'y a rien de fait.
En fait, c'est plus dur.
Mais les 50 mètres, c'est plus dur, effectivement, parce que bon, il va falloir revenir. 3 ou 4 comme ça sur un petit groupe comme ça devant, où visiblement ils ont l'air d'être bien soudés les uns des autres et se protéger, parce que visiblement ils partent l'un devant l'autre, ils se protègent du vent, et ça c'est important.
Bon, Hervé, Jean-Michel, un petit mot sur le début de cette épreuve.
Je ne peux pas dire chose parce que j'ai pas vu grand chose. On était très concentré avec Jean-Pierre parce que
c'est une course aussi, hein.
Exactement, c'est une course, donc il faut qu'on vous mette dans les meilleures conditions possibles, donc il faut être vigilant.
Voilà. Donc voilà. Six coureurs quand même, hein, toujours
six
en tête.
Dans les brises des rues, donc.
Absolument,
ouais.
La brise des rues, hein, qui était...
J'ai cru comprendre ça. Ouais. Ouais.
Donc six coureurs aux avant-postes, il y a eu une petite amorce d'attaque hein, au bas, on a vu Fabrice Desrues partir avec un autre coureur. Bon, la jonction s'est faite, ça veut dire qu'on a commencé un peu à tester déjà
Je pense que oui, ils ont voulu un petit peu, Fabrice, je pense qu'il a voulu tester un petit peu ses concurrents, ceux qui sont autour de lui, pour voir quel était l'état de forme des uns et des autres.
Les
forces en présence, exactement, ouais. Jean-Michel. Mm-hmm. Exactement. Mais là, ils sont toujours groupés. Je pense qu'il va faire la courte. Là, on rentre donc dans la forêt. La grande ligne droite donc qui arrive, donc les temps de coupe-gorge, qui, je pense pas que fera la différence, parce que c'est une grande ligne droite.
C'est
pas tout plat. On arrive au quatrième kilomètre. C'est pas tout plat. Il y a un léger faux plat montant.
Ouais.
Mais néanmoins, on a un petit banc de passe. Je pense que les coureurs vont se préserver. Justement, moi, j'ai dit que la course va certainement se dessiner après la Nationale 10, sur le pont là-bas, où on passe du côté du Croix-Lac là-bas, parce que nous avons un banc de passe ici, donc les coureurs vont se gérer un petit peu.
Oui, bah c'est intéressant, Hervé, parce que je crois que c'est la première fois qu'il y avait ce Rambouillet, qu'on va vivre une course où il y a déjà six coureurs échappés dès les premiers kilomètres. Hein. Je crois qu'on n'avait jamais connu ce genre de situation. Il y avait souvent un ou deux coureurs qui prenaient les devants et qui s'expliquaient ensuite. Là, un groupe de six coureurs, rescapés d'un premier groupe de 10, je crois que on va vivre une course un peu insolite.
Oui, je crois qu'à mes connaissances, depuis que je ouais. commande les courses avec vous, RBE, je crois que c'est la 7e fois ou 8e fois, je ne sais plus, ça part tellement vite. Mais ce que je voulais dire, effectivement, je crois que c'est une des courses que je peux voir actuellement où il y a autant de coureurs en tête. Même si le deuxième groupe n'est pas très loin, puisque je dirais il y a 80 mètres. À peine. La course n'est pas jouée. C'est surprenant, parce que Rambouillet n'a pour habitude de se retrouver un ou deux coureurs au départ.
Mais
tant mieux pour nous et tant mieux aussi pour les spectateurs, parce que ça va donner un peu
du piment
à la course. Mm-hmm. Mais je vois qu'ils se parlent entre eux. Ils ont l'air à l'aise. Bon, c'est les semis Rambouillet. Bon, peut-être une qualificative pour le Challenge des Yvelines, une qualificative pour le Championnat de France, du semi-marathon. Bon, c'est pas rien. Donc, les coureurs sont là, c'est pour se qualifier. Je pense que ça va être une belle course.
Alors justement, ça va se passer comment dans ce groupe des 6? On va prendre chacun sa part pour le relais, on discute, certains vont bluffer, vont refuser les relais, ça va se passer comment?
Mais tout dépend maintenant de l'état de forme des uns et des autres. Bon, forcément, celui qui est en méforme, il va bluffer, ça c'est évident.
C'est pas mal quand même.
C'est en méforme dans le groupe des 6, mais bon, à la vitesse qu'on va quand même, on risque peut-être de craquer au bout du 15e kilomètre. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer sur le bateau, peut-être au 10e kilomètre, il va dire, je pars, qui vivra, verra, on verra, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça casse, ça pointe, c'est tout. Mais je vois qu'ils discutent entre eux, ils se relaient tranquillement. Non, ils ne sont pas appelés, il y a un petit écart de 80 mètres du deuxième groupe. Non, ils font une belle course, je trouve qu'ils sont bien alignés, ils sont en plein milieu de la chaussée, donc c'est très important parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand il y a une chaussée qui est légèrement bombée, surtout avec la chaussée très humide, les chaussures qui sont ultra légères, donc très peu de crampons, peut provoquer aussi des légers glissements au niveau et ça peut gêner au niveau des genoux.
D'accord.
Il faut tenir le haut du pavé, n'est-ce pas?
Très bien, effectivement, oui, il faut tenir le haut du pavé, c'est bien, Jean-Michel. Donc là, on arrive...
C'est 25 au kilomètre 5 déjà.
Et oui, donc c'est quand même une course qui est rondement menée. On est à 3 minutes 5 au kilo. Ça va très vite.
Oui, bah,
donc là, actuellement aussi, tiennent la distance, comme j'ai précisé tout à l'heure, on est aux alentours de 1,8, 1,9 au semi-marathon du Rambouillet, qui est donc un bon résultat. Mais Fabrice, je pense qu'il risque peut-être de nous réserver un bilan tour.
C'est sa façon de courir.
Oui,
hein. C'est un métronome. Un métronome, c'est ça.
Absolument. Un rouleau compresseur qui prend sa vitesse de croisière dès le départ et qui ne bouge plus. Et voilà. Et c'est à l'usure qu'il arrive
à prendre ses coureurs comme ça, truc comme ça.
Alors faut pas se mettre dans le rouge aussi, il faut savoir justement savoir gérer sa course.
Non mais quand on a un niveau tel que Fabrice Roux, je pense qu'on met rarement dans le rouge, sauf que s'il est en méforme, là forcément donc il joue son bateau. Mais non, c'est un métronome, il sait gérer sa course et depuis le temps que je le vois courir, c'est un bon gestionnaire.
Le fait de savoir qu'il est peut-être l'homme à battre, on peut aussi pas prendre les relais, on peut lui faire faire plus d'efforts que les autres.
Faut pas oublier que bon bah tous les concurrents sont tous méfiants de lui parce qu'il a quand même le dessin numéro 1. Mm-hmm. Le dessin numéro 1 est porté par l'ancien vainqueur de l'année dernière, bien sûr, hein, c'est Fabrice de Rue. Et donc tout le monde est méfiant. Forcément, ils sont 6 en tête, donc les 5 qui sont autour de lui sont forcément méfiants. Est-ce qu'ils le connaissent? J'en sais rien, parce que on n'a pas tous les noms des coureurs, mais bon, en général, ils se connaissent tous les uns et les autres, donc ils peuvent. Ils disent qu'ils ont été en forme, ils ont été en forme entre eux, mais bon, d'un moment, c'est comme ça que ça se passe, les courses.
Mmh. Alliance tacite en course, coalition, pourquoi pas, quand ça bouge des rues?
Non, nous ne sommes pas aux élections, Philippe.
Mais
à ce niveau-là, non, je pense que le semi-marathon de Rambouillet, celui qui le gagne, bon, mais il est pire de le gagner. Donc, je ne pense pas qu'il y a alliance. Je dirais au niveau du groupe. Hein.
Très bien, allez, on marque un petit bail musical et puis on trouve route du semi-marathon. Oui, bah nous retrouvons donc la route du semi au kilomètre 8. Hervé, pendant qu'on passait de la musique, on a bien fait, hein, parce que la réception n'était pas très bonne, ça s'est quelque peu décanté. Ils ne sont plus que 3 maintenant sous l'impulsion de l'homme qui visiblement apparaît comme étant l'homme fort de ce semi, à savoir Fabrice de Rue, le Marseillais, l'ex-rambolitain.
Absolument, Fabrice de Rue qui, donc, visiblement, il a décidé de mener la vie dure à ses concurrents. Il n'y a plus que 3 coureurs en tête. Donc, Fabrice de Rue et Eulion Philippe, qui est de Rambouillet Olympique. Le troisième concurrent, j'ai du mal à deviner son dossard, mais visiblement, il est très fort aussi, parce que j'ai remarqué à maintes reprises qu'il regarde ses concurrents, donc ça semble qu'il est à l'aise. Il leur a même dit à Fabrice de Rue, passe devant. Moi, j'ai cru comprendre ça. Et Fabrice, lui, qui était un métronome, préfère faire sa course telle qu'il a décidé de la faire pour aller, à mon avis, encore au bout.
C'est quand même impressionnant sa façon de courir. Hein. Il est toujours en tête, il accélère très peu et puis il use ses adversaires au fil des kilomètres.
Mais ça fait mal parce que quand on a un coureur comme ça dans le groupe et qui est un métronome, qui ne bouge pas,
il n'y a pas d'à-coup,
c'est très difficile à gérer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il vaut, on ne sait pas jusqu'où il va aller comme ça et il fait très 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 mal.
Et effectivement, ces sous-bois, on fait la sélection aujourd'hui. Hein. Beaucoup de coureurs ont souffert à travers ces sous-bois, peut-être plus que les années précédentes.
Peut-être. Je pense aussi que le fait que la chaussée soit glissante a peut-être aussi laissé quelques séquelles pour certains coureurs. On arrive donc à la Croix-Saint-Jacques.
Oui, partie commune avec le semi du Paray. Hein.
Partie commune avec le semi du Paray. C'est une course qui se roule très très bien. Je pense que Fabrice de Rue l'a certainement vu de cette manière là. À mon avis, au 15e, Philippe, je pense pas me tromper, qui va accélérer pour terminer en beauté cette fameuse course.
Voilà, il y a un petit réguillon. Nous, on va en profiter pour vous faire envoyer le carillon de 10h. Et puis, on se retrouve rapidement pour savoir si, justement, Fabrice de Rue va profiter des kilomètres qui restent pour fausser compagnie à ses 2 compagnons d'échappée et puis finir cette course en solitaire. Allez, le suspense demeure sur Antenne d'Herbeur.